Les Rolling Stones racontaient comme votre vie même. Un feuilleton de François Bon. 5. 1963. Edith Grove.
Leçon pour vivre à pas cher dans la capitale de l'Angleterre. Du 102 Edith Grove au Station Hotel Richmond.
S'attendent pas à des révélations. Mais plus que le grand bruit public, nous retiennent ces périodes d'invisibles mutations, d'où ensuite on sort tout armé. Vrai, pas vrai, exagéré, peu importe. Il s'agit finalement de légendes, non ? Alors, au petit bonheur du jukebox, sur ce qu'ils apprennent à jouer, sur ce qu'ils découvrent d'eux-mêmes, grands enfants livrés à la ville, ou bien grands enfants à qui, pour la première fois, la ville est livrée. Et à la semaine prochaine, les choses plus sérieuses. Résumons. On est en juillet 62. On a formé un groupe. Il est composé de 5 musiciens. Brian Jones, fondateur, guitariste, chanteur. Mick Jagger, chanteur. Keith Richards, guitariste. Et Dick Taylor, basse. On n'a pas de batteur. Mais on sait que la chimie a pris. Pour Mick, les permanents allers-retours entre Londres et Dartford ne sont plus possibles. Brian a une chambre, Powys Square. Mick reste souvent y dormir. Il a sa bourse, la London School of Economics. Il loue une grande chambre avec une pièce commune, à Brackley Road, dans un quartier excentré. Elle la partage avec Brian et Pat Andrews, intimité forcée.
In those days, shops closed at 1 p.m. on Saturdays, and Brian was working a half day. Mick was still woozy. I made him coffee and sat on the end of the settee to give him the mug. Mick swung up, grinning. He put his arm around me and made a pass. I wasn't interested. Brian was a very jealous man, but I had never been unfaithful to him, and I wasn't about to start with Mick. En ce temps-là, les boutiques fermaient à 1h de l'après-midi le samedi, et Brian devait bosser la moitié de la journée. Mick était encore un peu pété. Je lui ai fait du café et je me suis assise sur le bout du divan pour lui donner la tasse. Il s'est relevé en grimaçant. Il m'a enlacé et m'a fait des avances. Ça ne m'intéressait pas. Brian était un mec très jaloux et je ne lui avais jamais fait de crasse. Je n'allais pas commencer avec Mick.
Compliqué, la relation de Mick aux amis de ses amis. Et puis, c'est pas terrible. Il y a une cuisinière à charbon, un jour on met le feu. Alors, c'est Mick qui trouve, grâce à sa bourse, le 102 Edith Grove. Une petite rue qui donne sur la Tamise, au bout de Chelsea. Des petites maisons identiques à Bow Window, avec devant chaque porte un étrange portique à colonnes. On a loué le premier étage. Au second, un couple de retraités, les Offers. Comme personne n'a de réfrigérateur, ils mettront longtemps à découvrir que ce ne sont pas les chats du quartier, mais les voisins du dessous, qui volent dans leur garde-manger grillagé suspendu à la fenêtre. Dessous, des étudiants en médecine. Quand ils ont une fête, le samedi soir, on se propose gentiment de les aider à ranger, juste pour récupérer les bouteilles consignées. Chaque vendredi soir, la propriétaire, une boulangère du quartier qu'ils surnomment Madame Morgan Morgan, passe prendre le loyer de 4 livres. Ce n'est pas le grand luxe, Edith Grove. Un évier et pas de salle de bain, un minuscule chauffe-eau qui suffit à peine pour le shampoing de Brian et plus rien pour les autres, une seule ampoule au plafond et un WC sur le palier pour toute la maison. On est 4, Mick et Keith dans une chambre, Brian et Dick Attrell, un copain de Cheltenham qui vient de terminer l'armée, dans l'autre. Quand Pat Andrews rend visite à Brian, on attend tous dans l'autre chambre en gardant l'enfant. Dick Attrell a 80 livres d'économie. Brian les lui soutire en grande partie pour un amplificateur. Il est le souffre-douleur, Attrell. On lui prend ses fringues, on le laisse dehors en pleine nuit et pour finir, en plein sommeil, on le branche sur le 110 volts. Il finit par partir. C'est Edith Grove, phase 2. Maintenant, c'est l'hiver. Pour se chauffer, on a un appareil à gaz dans lequel on doit mettre une pièce de 5 pence pour qu'il marche 20 minutes. Quand Wyman est là, c'est lui qui fournit. Les autres ne quittent plus leur manteau, même pour dormir. En décembre, on arrive à jouer plusieurs fois par semaine. Mais Keith doit rentrer à Dartford, malade. Elle vient souvent les voir, Doris, la mère de Keith. Elle ne laisse pas d'argent parce que ça partait en cordes de guitare plutôt qu'en nourriture. Alors elle amène des sacs de courses et repart avec le linge sale. En janvier, le grand événement du groupe, c'est Charlie Watts. Il joue à l'époque avec le Blues by Six, le groupe Dartwood. Mais le Blues by Six, à son tour, part en tournée et Charlie Watts n'aime pas les tournées. Les Stones font la première partie et dans ces cas-là, on donne un peu d'argent au batteur pour qu'il joue avec les deux groupes, puisqu'on n'a toujours pas de batteur fixe. Est-ce que Charlie Watts découvre comme la musique des Rolling Stones a changé en la vivant depuis la scène? Il n'est pas un grand parleur, Charlie. À l'entracte, il dit à Hartwood:
I'm gonna play with these guys now. Je joue avec ces mecs maintenant.
Brian Jones a enfin gagné son batteur.
Right, that's it, you're in. Très bien, ça y est, tu en es.
Et tout de suite, ce 14 janvier 1963, les Stones, ça va mieux. Mick:
Once we got together with Charlie, it seemed to work very well, dit Jagger. Une fois qu'on a été tous ensemble avec Charlie, ça semblait marcher vraiment bien.
Et Bill?
And the moment Charlie joined, I could suddenly play much better. Du moment où Charlie est arrivé, c'est comme si je pouvais d'un coup jouer beaucoup mieux.
Charlie Watts, désormais, passera lui aussi une bonne partie de son temps à Edith Grove, battant la mesure sur la table de la cuisine, ou juste fumant des cigarettes, ou ajoutant lui aussi 5 pence pour l'appareil de chauffage. En janvier, on a fait 4 fois les lundis au Flamingo, 4 fois les samedis au Ealing, on a eu 2 fois le mercredi au Red Lion, et 2 fois, on est invité à jouer à Windsor, au Rikitic Club. On est vraiment devenu un groupe, des musiciens presque professionnels. On soit à peine ou pas du tout payé, on passe outre. Comme on n'est plus que 3 pour payer le loyer, Mick passe directement une annonce au micro. Un gars de leur âge se présente. Il s'appelle James Felge et il travaille dans une imprimerie du quartier, ça l'intéresse. Il viendra visiter le mardi suivant. Ça marche. Il emménage dans la chambre de Keith, tandis que Mick s'héberge dans celle de Brian. Et c'est par lui qu'on aura tout le détail de la vie à Edith Grove, ce premier semestre de 63. Au rez-de-chaussée, maintenant, c'est 2 infirmières. On sympathise. Elles aiment lire dans les lignes de la main, même si elles ne sauront pas y découvrir le grand destin des Rolling Stones. Elles empruntent dans les placards de leur hôpital de quoi soigner leurs boutons, bronchites, bobos. On sait ainsi qu'un nouvel objet fait son apparition, un magnétophone. On s'amuse à pendre un micro au-dessus de la chasse d'eau, enregistrer chaque locataire. Les filles finiront par se vexer. La cohabitation avec Felge n'est pas simple. Il aime le jazz et eux, pas. Un jour, on balance par la fenêtre ses disques de Miles Davis. Vexé, il ne condescendra pas à aller les ramasser. Pourtant, on s'en sert du minuscule jardin. C'est là qu'on dépose les assiettes et la vaisselle, les jours de pluie, pour qu'elles détrempent. Un soir, Richards se moque de Felge, qui cire ses chaussures, parce que lui, Keith Richards, ne les cire pas. Alors, Felge crache sur le mur, puis entoure le glavio d'un trait de crayon et dit « Celui-ci s'appelle Yellow Humphrey ». On se réconcilie, on rit. Quand Jagger rentre, on lui raconte l'histoire. Felge envoie un second glavio, le dessine et le présente, Scarlett Jenkins. Et c'est ainsi que les compositions collectives du groupe, bientôt, seront signées Nanker Felge. Nanker, c'est la grimace, et Felge, c'est Felge. L'autre lieu important, c'est la cabine téléphonique du quartier, dans le Ernie ou Wimpy, qui vend des fish and chips. et où on tâche, quand on a 3 sous, d'avoir un repas chaud. Le patron leur installe le téléphone au bout du comptoir et compte les unités. Brian fait les démarches et les autres écoutent, tout près. Il faut trouver toujours des engagements, des clubs. C'est ainsi qu'il téléphone à Giorgio Gomelski, un fils d'émigrés russes qui a vécu en Suisse et en Allemagne et se passionne surtout pour le cinéma. C'est lors d'un tour des USA en autostop qu'il a découvert le blues et a souhaité en implanter en Angleterre les premiers festivals. Gomelski vient d'ouvrir dans la banlieue Est, à la gare de Richmond, le Crawdaddy. C'est une grande salle, il lui faut des groupes forts. Il a réservé le dimanche au Rhythm and Blues, mais il a choisi le groupe de Dave Hunt. Gomelski leur propose le Haringey Bar, qui est bien moins luxueux, un bar d'hôtel, où Giorgio, pour entamer la soirée du dimanche après-midi, quand on n'a pas encore de clients, a besoin d'un groupe qui fasse du bruit. Mais Dave Hunt, sur le chemin de la gloire, début mars, prévient Gomelski qu'il ne jouera plus le dimanche suivant au Station Hotel Richmond. Pris de court, Gomelski demande aux Stones de le remplacer. On fait un arrangement financier, 10 livres fixes et la moitié de la recette. Mais les Stones s'y mettent. On va imprimer un tract qu'on ira soi-même coller partout où on peut dans Soho. 3 mois plus tard, le seau avec le fond de colle, rempli de mégots, empestera encore Edith Grove. Gomelski est un révolutionnaire. Il est le premier à avoir l'idée d'éteindre la salle, de laisser seulement des projecteurs sur les musiciens. Mais grâce au tract, les fidèles du Marquis et du Healing sont venus. Pas beaucoup, une 30aine de personnes. Mais dans cette salle 2 fois plus grande que celle où ils ont joué jusqu'ici, les Stones doublent leur volume et changent de musique. Gomelski leur accorde de recommencer le dimanche suivant. Cette fois, il y a 80 personnes. Et ça va encore doubler, puis quadrupler les semaines suivantes. Le Station Hotel Richmond, c'est l'acte de naissance, la vraie gloire des Rolling Stones. Giorgio Gomelski y contribue. Il a adopté les Stones, se considère leur manager. Il veut réaliser un film de leurs prestations. Chaque semaine, il publie dans Melody Maker ou Jazz News un encart qu'il rédige lui-même.
Don't be misled. Hear the real, authentic rhythm and blues sound. The Rolling Stones. The unparalleled Rolling Stones. The thrilling, exhilarating, galvanic, intoxicating, incomparable Rolling Stones. Hyperheterodox R&B voluptuousness from the tempestuously transporting Rolling Stones. The unprecedented, incontestable, inexhaustible purveyors of spontaneous combustion. Untamable wildfire explosion of impetuous R&B with the unsuppressibly storm-raising Rolling Stones. Unrepressed R&B with the immitigating, ebullient Rolling Stones.
C'est ainsi qu'on est passé des Rolling Stones avec l'apostrophe aux Rolling Stones avec un G. Et Giorgio leur fait un autre cadeau. Les Beatles en sont à leur 3e 45 tours. Ils enregistrent « I Think You're Lucky Stars », alors que les Stones n'ont même pas eu droit encore à la radio ni au disque. À la radio, parce qu'on n'aime pas le chanteur.
« It's a great band, but you'll never get anywhere with that singer. C'est un bon groupe, mais avec un chanteur pareil, vous n'irez jamais nulle part. »
Leur chemin du retour passe par Richmond. Giorgio obtient qu'il s'y arrête. Une visite des Beatles, c'est de la pub pour 2 mois. Les Stones, ce soir-là, ont drôlement le trac quand les quatre silhouettes en blouson de cuir noir paraissent devant la scène. Ce qui n'était pas prévu, c'est que les Beatles restent jusqu'à la fin et qu'on les emmène même à Edith Grove, où pourtant il n'y a rien à boire. Deux jours après, les Stones sont invités à voir depuis les coulisses le premier concert des Beatles au Royal Albert Hall. Enfin, ils aident à charger le matériel quand une fille se précipite sur Brian et lui demande un autographe, témoignage de Giorgio Gomelski.
He told the girls he wasn't in the Beatles. He told them he was a Rolling Stone. But it didn't matter. They wanted his autograph anyway. And as we were walking away, Brian said, "You see, Giorgio, that's what I want." Bon, il a dit aux filles qu'il n'était pas des Beatles, qu'il était un Rolling Stone. Et ça ne fait rien. Elles voulaient l'autographe quand même. Et quand on s'est tiré, Brian qui dit, "Tu vois, Giorgio, c'est ça que je veux."
Les grands événements ne sont pas forcément pourtant les plus visibles. Ainsi, à Edith Grove, ceci que raconte Keith Richards.
I went out one morning and came back in the evening and Brian was blowing Heartman. He's got it together. He's standing at the top of the stairs saying, "Listen to this. Whoa, whoa. All these blues notes coming out. I've learnt to do it. I've figured it out." Je pars un matin, je reviens le soir. Et Brian, toujours à souffler dans son harmonica, mec, il avait capté ça. Installé en haut de l'escalier qui me faisait « Écoute-moi ça !» Waouh, waouh, tout ce son du blues qui lui venait. « J'ai appris à le faire, » il me dit. « J'arrive à le sortir !» So he started to really work on the harp. He dropped the guitar. He still dug to play it, and was still into it, and played very well. But the harp became his thing. He'd walk round all the time playing his harp. Alors il a commencé à vraiment travailler son harmonica. Et il a lâché la guitare. Il en jouait encore, il était là-dedans, et il se débrouillait sacrément bien. Mais l'harmonica était devenu son truc. Et il passait tout son temps à jouer de l'harmonica.
Et ce soir du 21 avril 1963, où les quatre Beatles montent l'escalier d'Edith Grove, ce sera la première remarque de John Lennon à Brian Jones.
You really play that harmonica, don't you? I can't really play, I just blow and suck. Tu y arrives vraiment, hein, avec cette harmonica? Moi, j'en joue pas vraiment, à part souffler et sucer dedans.
Trois des Rolling Stones, Ian Stewart, Charlie Watts et Bill Wyman, sont encore salariés. Mick reste étudiant en économie. Cela va devenir difficile à concilier. Ils ont même enregistré un disque à leurs frais, 96 livres, avec des moyens amateurs. À Edith Grove, on l'a passé 10 fois, 100 fois. Mais aucune des maisons de disques auxquelles on l'a généreusement envoyé n'a répondu. C'est la prochaine étape. Les Rolling Stones racontaient comme votre vie même. Un feuilleton de François Bon. Texte dit par Judith Allison et François Bon. Équipe de réalisation, Jean-François Néolier, Patrice Lecomte, Olivier De Canis et Jacques Taroni.